Eh bien, on va aussi aller un petit peu dans une maison ce matin. Parce que des fois, on est hors de la maison puis on ne s'en rend pas compte. Mais j'aimerais d'abord vous poser un peu la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir indigne de Jésus? Par exemple, vous avez une conversation avec quelqu'un que vous appréciez et tout à coup, il y a quelque chose qui sort de votre bouche et qui n'aurait pas dû. Et vous vous sentez tellement mal. Vous êtes culpabilisé, puis vous ne savez pas comment gérer ça. Ça fait un truc à l'intérieur qui est tellement pénible. Et ensuite, vous bataillez avec ça pour savoir, mais qu'est-ce que j'en fais? Ou alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas réussi à passer du temps avec le Seigneur. Puis vous ne retrouvez plus le chemin, vous ne savez plus comment aller dans la prière. Vous aimeriez aller le louer, l'adorer, mais vous ne vous sentez pas digne, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas réussi. Vous savez, ces sentiments de culpabilité. Ou bien vous vous êtes mis un standard, vous vous êtes mis la barre à une certaine hauteur, puis vous n'arrivez jamais à l'atteindre, et vous êtes dans la culpabilité. Enfin, peut-être que je parle seulement à moi-même ce matin, je ne sais pas. Peut-être que vous, vous avez déjà senti ces choses-là. Un sentiment d'indignité ou de culpabilité, ou j'y arrive pas. Et il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas tout à fait... Vous n'êtes pas tout à fait dans la maison, vous gravitez un petit peu à l'extérieur, ouais, il y a quelque chose, vous avez un sentiment de frustration et voilà, il y a quelque chose qui gêne. Et quand c'est comme ça, souvent on se condamne. Mais si on est dans cet état d'esprit, c'est que il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris. On n'a peut-être pas bien compris quelque chose de la part de Jésus. On n'a peut-être pas bien compris ce qui l'attire en nous. Alors on va petit à petit voir qu'est-ce qui attire Jésus en nous. Mais avant cela, je vais vous lire le texte de ce matin dans Marc au chapitre 2. C'est un texte qu'on trouve aussi dans Matthieu, au chapitre 9, qu'on trouve aussi dans Luc, au chapitre 5. Et j'ai choisi Marc. Marc 2, les versets 13 à 17, vous connaissez ce texte, c'est Jésus qui appelle Lévi. Lévi qui est publicain ou alors collecteur d'impôts. Si vous avez une vieille version, il y a marqué publicain. Si vous avez une nouvelle version, il y a marqué collecteur d'impôts. Et nous sommes à Capernaum, une ville qui est située tout près du lac de Tibériade ou lac de Génézareth, ou mer de Galilée. Donc quand on parle de la mer dans ce texte, il s'agit de la mer de Galilée, de Tibériade. C'est pas, on n'est pas dans la grande mer, j'ai peur de dire une bêtise. C'est la Méditerranée, c'est juste, hein? Il s'agit pas de la Méditerranée, il s'agit du lac de Galilée. Capernaum est tout proche. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi !» Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Jésus sortit de nouveau. C'est étonnant cette précision. Pourquoi il ne nous a pas juste dit « Jésus sortit pour aller au bord de la mer pour enseigner les foules » Jésus sortit de nouveau. Quand Jésus voulait être seul, quand il avait besoin de se ressourcer en prenant du temps dans la prière, seul à seul avec son Père, il se retirait sur la montagne, où il allait dans les déserts, où il restait dans une maison. Mais quand il voulait intentionnellement aller exercer son ministère, il allait dans un endroit public. Il allait soit dans la synagogue, un jour de sabbat, ou alors il allait dans des endroits comme le bord de la mer, où la foule pouvait se rassembler, il y avait assez de place, et où il pouvait l'enseigner. Mais à chaque fois qu'il décidait de sortir, il savait qu'il y aurait hostilité, il savait qu'il y aurait conflit, il savait qu'il y aurait opposition. Parce qu'à chaque fois, Jésus allait pour proclamer, instaurer et démontrer le royaume de Dieu sur la terre. Autrement dit, toucher des vies pour les faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Le jour du sabbat, il va dans la synagogue et qu'est-ce qui se passe? Soit il va lire Ésaïe, il va dire une parole et juste le petit truc qui va rendre fou les pharisiens, les responsables spirituels, les scribes, les spécialistes de la loi. Et ça va clasher et Jésus va donner une parole remplie d'enseignements qui va changer des vies. Ou alors il va carrément guérir ou délivrer quelqu'un un jour de sabbat où on n'a pas le droit de travailler. Où ça va de nouveau ébranler ce monde des ténèbres. Et non seulement des personnes seront guéries, sauvées, délivrées, mais en plus, il y aura toujours une parole, un enseignement, pour que tous les autres, jusqu'à nous aujourd'hui, nous comprenions le royaume de Dieu sur la terre. Et tout ce que ça signifie. Alors quand il est marqué « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer », ça veut dire « il va de nouveau se passer quelque chose ». Attention, il va de nouveau y avoir un conflit, il va de nouveau y avoir de l'opposition, il va de nouveau se passer un truc et Jésus va de nouveau gagner, il y a de nouveau des personnes qui vont passer des ténèbres à la lumière. Alors soyons attentifs. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi !» Lévi se leva et le suivit. Facile ! Ça a l'air tout facile. « Suis-moi !» il le suivit. Mais en fait, c'est pas facile du tout. Imaginez, Lévi, il est collecteur d'impôts. On en avait déjà parlé il y a un certain nombre de mois quand on a parlé de Zachée. Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts, c'était pire. Mais les collecteurs d'impôts, c'était des Juifs qui travaillaient pour les Romains. Et Capernaum, c'est une base militaire romaine. Et en plus de ça, c'est une ville qui est au carrefour de routes marchandes importantes, des routes commerciales. Alors, il y a vraiment un brassage de population dans cette ville. Il y a tous les marchands nomades qui passent par là. Il y a les Juifs qui y vivent et il y a les Romains. Donc, dans la foule, il y a vraiment toutes ces personnes-là. Et qu'est-ce que fait quelqu'un qui est un poste de péage? Il doit prélever des taxes, les droits de douane pour l'importation, l'exportation du commerce, des droits de péage, de passage. Et à chaque fois, les collecteurs d'impôts, ils ont le droit de majorer un petit peu les prix pour leur salaire. Mais vous imaginez, ils majorent ce qu'ils majorent. Ils majorent copieusement. De fait, Lévi était très riche parce que c'est un festin qu'il organisait plus tard pour Jésus et pas seulement pour Jésus. Donc, il a réussi à accueillir beaucoup de monde. Il avait vraiment des moyens. Mais il était considéré comme un paria à cause de ça. Parce qu'il volait non seulement les Romains et les étrangers, mais il volait aussi son propre peuple. Il était considéré comme un traître. Les collecteurs d'impôts dans le peuple de Juifs n'avaient pas le droit de témoignage, ils n'avaient pas le droit d'être juges dans les tribunaux et ils n'avaient pas accès à la synagogue. Autrement dit, ils n'avaient pas accès à la communion fraternelle. Voilà, ça c'est Lévi. Alors imaginez la scène, on est à Capernaum. De nouveau, Jésus décide d'aller au bord de la mer. Il sort de la maison où il était. Ses 12 disciples sont avec lui, le suivent, mais il y a d'autres disciples, il y a ceux qui se rajoutent, qui se disent « mais ce rabbin-là, il a quelque chose, il a un message, moi j'adhère, je le suis ». Et il y a les curieux, il y a tous les curieux qui disent « moi j'y vais parce qu'il paraît qu'il fait des miracles et puis j'aimerais bien voir ça, moi j'aimerais voir les guérisons ». Et il y a ceux qui sont malades, qui se disent « moi j'aimerais bien être guéri ». C'est un petit peu comme… Vous savez, vous avez un prédicateur, un prophète, quelqu'un que vous appréciez, puis vous le suivez sur sa chaîne YouTube. Ça vous implique pas trop. De temps en temps, vous lui envoyez un WhatsApp. Eh bien, il y a des gens comme ça, il y a des curieux comme ça, qui prennent un peu ce qu'ils veulent, mais qui s'impliquent pas trop. Et il y a ceux qui sont très proches de Jésus. Et il y a les pharisiens. les responsables religieux, il y a les scribes. Les scribes, c'est ceux qui sont spécialistes de la loi. Donc, ils interprètent la loi et en plus de ça, ils y rajoutent de la tradition et ils imposent le respect de leur tradition à la population. Et c'est des choses qui sont impossibles. C'est impossible de respecter la loi plus les traditions et tout ça, c'est pas possible. C'est des gens qui sont vraiment désagréables à vivre, mais ils sont là. Et il y a des Romains qui gravitent, et il y a des marchands, il y a tout ce monde qui foisonne, et toute cette foule qui suit Jésus pour aller au bord de la mer, et dans tout ça, dans ce brouhaha, donc Jésus n'est pas seul, il est entouré, il marche, puis tout à coup au loin, il dit, hey, « Lévi, suis-moi !» Et Lévi, depuis là-bas, il se lève, et puis il suit Jésus. Et pour Lévi, c'est pas simple du tout. Parce que ce qu'il va faire, il va pas prendre un panneau, puis marquer « absent de retour dans 2 heures ». Dans son bureau de péage. Non, il va marquer « absent pour cause de démission immédiate ». Lévi, il quitte tout. Il plaque tout. Il plaque ses richesses, sa sécurité financière, toutes ses sécurités, ses fausses sécurités, puisque ses sécurités, il les a prises dans un trafic injuste. Toute sa vie passée, toute sa vie passée, ses faux schémas, sa fausse mentalité, ses vols, ses trafics, il plaque tout et il suit Jésus. Il passe directement des ténèbres à la lumière. Changement de vie radical dans son cœur. Il sait qu'en quittant son poste, il ne pourra pas le retrouver. Parce que même s'il est considéré comme un paria, son poste il sera repourvu très vite. Parce que c'est lucratif. Et l'argent, ça a un tel pouvoir que ça se presse au portillon. Il y a des personnes qui se disent « tant pis s'il se passe ça, 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 moi, je veux du fric, moi, je veux être riche, moi, je veux une belle maison. » Alors, il sait que quand il plaque tout, c'est un non-retour. Lévi suit Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, quand ce rabbin qui passe là, devant tout le monde, entouré d'une foule, qui lui crie « suis-moi », qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait la force de tout plaquer, de tout abandonner, en ayant confiance que sa vie n'est pas perdue? Qu'est-ce qui s'est passé? Une parole, un appel. C'est le Père qui est aux cieux, c'est Dieu, le Créateur, qui appelle Lévi, qui l'appelle dans son cœur, qui l'appelle dans son esprit au plus profond de sa nature. Par la parole de Jésus et par l'action du Saint-Esprit qui lui donne une puissance de conviction irrésistible. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel qui lui dit, mais moi qui suis Dieu, je viens te rejoindre au plus profond de ton humanité pour déposer en toi une part de divinité. C'est la grâce de l'appel de Dieu. Et en plus de ça, le Saint-Esprit lui donne la grâce de pouvoir répondre à l'appel. Tout est grâce, grâce sur grâce. La grâce de l'appel, la grâce de pouvoir répondre à l'appel. Et si nous sommes là ce matin, aujourd'hui, c'est parce que nous avons été appelés et parce que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir répondre à cet appel. Pour certains d'entre nous, ça s'est passé depuis tellement tout petit, peut-être même qu'on n'était encore pas né, on était dans le ventre de notre maman, puis on était déjà proche du Seigneur, qu'on ne se souvient pas de ce moment-là. Mais on a une conviction en nous. On sait que Dieu est vrai. On sait que Jésus a payé pour nous. Cet appel, il a déjà eu lieu. Il est effectif. Et pour d'autres, vous vous en souvenez bien parce que vous avez fait comme les essuie-glaces ou un chambrelien. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Dieu est venu vous rechercher. Vous étiez tellement loin. Il est venu vous rechercher pour vous amener à une nouveauté de vie. Et cet appel qui a eu lieu une fois, de manière ponctuelle, il continue d'agir sur la durée, jusque dans l'éternité. Autrement dit, vous êtes toujours au bénéfice de la grâce. Il s'est passé quelque chose, c'est fait, mais on est aussi dans le déjà et le pas encore. Et dans notre nature humaine, on a des fois tendance à revenir un peu en arrière. Des fois, on oublie certaines choses. Des fois, on oublie un peu qu'est-ce qui s'est passé, qui nous sommes en Jésus. Et on commence à revenir à des mauvaises habitudes. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être pas. Peut-être que tout va toujours bien, hein, je ne sais pas. Alors c'est peut-être bon de se poser la question, mais moi aujourd'hui, dans cette histoire, je suis où? Je suis qui? Est-ce que je suis Lévi? Est-ce que je suis un curieux qui suit Jésus sur YouTube? Est-ce que je suis un pharisien qui me tient à l'extérieur, mais qui veut garder le contrôle, mettre des règles, ne pas trop me mouiller, ne pas trop me salir, mais quand même être là? Est-ce que je laisse Jésus me toucher ou est-ce que je mets une espèce de barrière qui l'empêche d'atteindre certaines parties de ma vie? Est-ce que je suis un disciple tellement proche que peu importe le qu'en dira-t-on, j'ai pas peur de suivre Jésus, j'ai pas peur du regard des pharisiens? Où est-ce qu'on se situe? Moi, je crois qu'on peut se situer à plusieurs endroits différents. Peut-être que dans certains domaines, on est un peu partagé. Pour des choses, je suis un peu légaliste. Pour d'autres, je suis un peu proche de Jésus. Pour d'autres, je suis un peu sur YouTube. Ça dépend. Peut-être que la question à se poser, c'est, une fois que le Seigneur m'a appelé, qu'est-ce que j'ai lâché? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Qu'est-ce que j'ai quitté? Réfléchissez quelques instants, sans le Seigneur et avec le Seigneur. Pour certains, vous savez que vous avez arrêté de voler, de mentir, de fumer, de... Peut-être certains, vous avez été délivrés de la colère. Quelle fausse sécurité avez-vous abandonnée? Est-ce que ta vie est complètement dans la lumière? Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais repris? Est-ce que tu serais revenu à tes anciennes habitudes? Est-ce que tu serais revenu à certaines fausses sécurités? À certaines lois que tu te serais imposées? Ou est-ce que tu es toujours complètement dans la grâce du Seigneur? Est-ce que tu essayes de répondre à tes besoins toi-même? Est-ce que tu as peur, est-ce que tu manques de confiance que le Seigneur peut pourvoir à tous tes besoins, quels qu'ils soient? Lévi, il a compris qu'il avait besoin du Seigneur dans tous les aspects de sa vie. Alors, il a fait plus que suivre Jésus. Jésus lui a dit une parole, il lui a dit « suis-moi ». Et Jésus, il allait au bord de la mer pour enseigner. Mais que Lévi a-t-il fait? Il a invité Jésus dans sa maison. Et du temps de Jésus, dans le Proche-Orient ancien, inviter quelqu'un, c'était rempli de signification. Il y a une différence entre accueillir quelqu'un qui a faim et puis aller, eh ben, viens vite manger un repas avec moi, on va partager ce qu'on a, il n'y a pas de souci. Je rajoute une assiette, je rajoute un couvert et on mange ensemble. Ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Inviter quelqu'un d'une manière officielle, comme un invité de marque, où au lieu de se mettre à une table sur un coin de tabouret, on s'étend par terre, on mange couché, on fait un festin, on invite des convives, ça a une signification. Et cette signification, elle dit que la personne veut lui offrir un gage, celle qui invite, elle veut offrir un gage de loyauté et de protection. Lévi veut être loyal envers Jésus et le protéger. Vous allez me dire, protéger Jésus, je crois qu'il est assez grand pour se protéger tout seul, c'est vrai. Mais être loyal envers Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire en lui. Ça veut dire respecter sa parole, respecter ce qu'il dit. Ça veut dire refléter dans sa propre vie la personne de Jésus. Ça veut dire être un témoin vivant. Protéger Jésus, ça veut dire que quand on me voit vivre, quand on voit toute ma vie, les gens reconnaissent la vie de Jésus en moi. Ça veut dire que les gens disent, celui-ci, on voit qu'il s'appuie sur le Seigneur parce qu'avec ce qu'il vit, il pourrait pas être dans cet état de paix ou de liberté. Cette personne-là, quand elle s'est fait violenter par quelqu'un, agressée, elle a réussi à garder son calme et à bénir, c'est que elle reflète Jésus. Être rempli du Seigneur, c'est une façon de protéger sa parole, de démontrer qu'il est vrai, que ce que je vis est vrai. Être loyal au Seigneur, c'est ça. Et c'est l'engagement de Lévi. Et Lévi, c'est impressionnant parce que quand il accueille Jésus, chez lui, ben c'est comme s'il l'accueille dans son cœur. Il est en train de lui dire, ben voilà, je t'accueille dans toutes les parcelles de ma vie, dans toute la laideur de mon péché, parce que j'ai besoin que tu viennes me rencontrer dans tous les domaines de ma vie. J'étale tout. En faisant venir Jésus dans sa maison, ben Jésus, il a vu l'étalage des richesses, le résultat des vols, du trafic, de sa traîtrise. Il a rien caché au Seigneur. Et en plus, et c'est là, soyez bien attentifs, Lévi n'est pas tout seul. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, donc collecteurs d'impôts, et de gens de mauvaise vie, pécheurs, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, en plein milieu du passage qui nous concerne, trois fois il est question, en deux versets, trois fois il est question de ces publicains et gens de mauvaise vie. Donc dans les nouvelles traductions, collecteurs d'impôts et pêcheurs. Peut-être ce mot pêcheur est plus juste. Trois fois, comme si c'est l'attention du texte. L'attention du texte, c'est ces personnes qui ont une mauvaise vie, qui sont pêcheurs, qui sont éloignés du Seigneur, mais qui sont dans la maison. Lévi n'est pas tout seul. Les gens qui étaient pêcheurs à l'époque, dans la compréhension juive et surtout pour ces religieux, c'était des gens, non seulement collecteurs d'impôts, traîtres, voleurs, menteurs, mais c'était des gens qui vivaient dans l'immoralité, qui avaient une vie de débauche, adultère, il y avait des prostituées. Mais c'était aussi les hérétiques, c'est-à-dire les gens qui faussaient la doctrine de la loi, donc de l'Ancien Testament. C'était les païens aussi qu'on considérait comme pécheurs. Les païens, c'est ceux qui n'étaient pas au bénéfice de l'Alliance, qui n'étaient pas juifs. Et des gens comme Lévi. Tous ces gens, c'était des pécheurs. Et tous ces gens, ils sont invités chez Lévi. Autrement dit, Lévi s'identifie et s'associe à tous ces gens. Lévi est en train de se rendre compte qu'il n'est pas meilleur. Il est plus riche, c'est lui qui invite. Il pourrait avoir du pouvoir sur les gens de son entourage, mais il reconnaît qu'il est de la même trempe qu'eux. Il n'est pas meilleur, peut-être qu'il est pire. Vous vous êtes déjà dit, quand vous regardez les gens dans l'église, oh, pas forcément ceux qui sont là ce matin, hein, pensez plus large, on ne va pas se mettre mal à l'aise les uns les autres. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, ben, moi je suis plus consacrée que cette personne. Moi je suis moins dans le péché que cette personne. Moi je suis plus appréciée par le Seigneur que cette personne parce que cette personne elle a encore du chemin à faire. Cette personne elle a rien compris. Est-ce que vous avez déjà porté un regard accusateur ou un jugement sur des personnes en vous pensant être mieux? Dites-vous que vous êtes dans un état aussi lamentable que cette personne, où vous l'avez été. Vous l'avez été parce que maintenant vous êtes justifié. Si vous avez mis votre foi en Jésus, bien sûr que vous êtes justifié, vous êtes pardonné. Mais tout est grâce. Vous n'y êtes pour rien du tout. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Et encore aujourd'hui, sans lui, votre consécration, c'est parce que Jésus est en vous, par son Saint-Esprit, parce qu'il vous aide. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait que Lévi, quand il invite Jésus, il reconnaît sa faillite. Il reconnaît sa faillite morale, sa faillite existentielle, sa faillite relationnelle, sa faillite spirituelle. Et nous sommes appelés aussi à reconnaître devant Dieu notre faillite chaque fois que c'est nécessaire. Et parfois, devant des frères et sœurs, nous avons besoin de reconnaître notre faillite. C'est important, plutôt que d'essayer de cacher, de sauver la face, faire croire qu'on est hautement spirituel alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Être vrai devant Dieu, être vrai devant les frères et sœurs, choisir des gens de confiance pour aller se repentir, déballer en disant, bah, en fait, j'ai tel problème. En fait, là, je suis en faillite, je n'y arrive pas. En fait, là, je me suis éloignée du Seigneur. Là, j'ai voulu faire ma propre loi. Là, j'ai voulu ma propre justice. Et ça ne marche pas. Lévi a invité Jésus. Mais, Jésus a accepté l'invitation. Et qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque d'accepter une telle invitation? Ça voulait dire qu'on avait la volonté de devenir proche, un ami proche de la personne qui nous invitait. C'était une offre de paix, une offre de confiance, une offre de fraternité et en l'occurrence de la part de Jésus, une offre de pardon. En bref, partager la table de cette manière-là signifiait partager la vie. Jésus, lorsqu'il est allé chez Lévi, il a partagé sa vie, il s'est identifié à toutes ces personnes qui étaient là. Il y a eu comme un échange. Non pas que Jésus était pécheur, c'était pas le cas. Mais Jésus n'a pas eu peur de se salir en fréquentant ces gens considérés comme impurs. Mais il s'est identifié à eux. C'était comme déjà une préfiguration de son sacrifice à la croix. À la croix, Jésus s'est identifié à nous. Il a pris notre péché sur son corps qu'il a offert en sacrifice. Eh bien, chez Lévi, c'est déjà ce qu'il fait. Parce que ce qu'il veut offrir à toutes les personnes qui sont là, c'est le passage des ténèbres à son admirable lumière. Sauf que lorsque il y a un passage des ténèbres à la lumière, hostilité, opposition, combat, conflit. Il y a des réactions et ça ne manque pas. Les réactions, elles viennent de l'extérieur, mais réfléchissez en vous, comment ça se passe. Quand il y a des enjeux spirituels, il y a souvent aussi une opposition, quelque chose à l'intérieur qui résiste. L'opposition, elle ne se fait pas attendre. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est toujours les mêmes. C'est pas de l'extérieur que vient cette opposition. C'est pas de l'occupant romain. C'est pas de ces commerçants étrangers. C'est pas d'une foule anonyme. Ça vient de l'intérieur. Ça vient des responsables du peuple juif. C'est de là qu'elle vient l'opposition. Les pharisiens et les scribes, les spécialistes de la loi, ils se croient hors du péché. Ils se croient irréprochables parce qu'ils pensent qu'ils respectent la loi. Et ils ne supportent pas qu'il y ait des gens qui n'y arrivent pas ou qui ne veulent pas. Alors ils pensent qu'ils sont externes au péché. Ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Mes amis, j'ai bien peur que dans quelques-uns d'entre nous, il y ait un pharisien ou une pharisienne, un ou une spécialiste de la loi qui sommeille et qui de temps en temps se réveille. Est-ce que ça vous arrive de vous placer sous la loi, sous votre propre loi, de vous condamner, de vous épuiser à ne pas pouvoir respecter les lois que vous-même tout seul vous vous êtes infligées? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? La grâce ou la loi? Les règles ou l'amour? Les règles ou la grâce? Est-ce que vous n'exercez jamais un certain contrôle sur votre vie? Jusqu'où est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus répond en deux temps, parce que c'est comme s'il répond en s'adressant à tous ces pécheurs qui reconnaissent leur péché, qui sont chez Lévi, et ensuite, c'est comme s'il répond aux pharisiens, aux religieux, aux légalistes. D'abord, il répond à tous ces pécheurs. Et il les considère comme malades, comme affectés, comme blessés, comme brisés, comme dans la douleur, dans la souffrance. Des malades qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un médecin. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Si vous aviez votre Bible avec vous, je parle pas de l'appareil tout plat où on fait comme ça dessus. Vous savez, ça glisse. Non, je parle de cet objet avec du papier où on peut tourner les pages. Eh bien, si vous aviez votre Bible papier avec vous, je vous dirais, mais prenez un stylo ou un crayon, puis à la place du M de médecin, mettez un M majuscule. Pourquoi? Quand Jésus dit médecin, il est en train d'affirmer sa divinité. Pourquoi? Il est en train de prononcer un de ses noms divins. Il fait référence à Exode 15, 26, lorsqu'il est dit « Je suis l'Éternel qui te guérit, Adonai Rapha ». Adonai Rapha, c'est en hébreu parce que c'est un texte de l'Ancien Testament. C'est un des noms de Dieu. C'est le guérisseur, autrement dit, dans notre vocabulaire, le médecin, avec un M majuscule. Et là, on est dans le Nouveau Testament, donc on est en grec, c'est un autre terme. Mais Jésus est en train de dire, ces gens-là reconnaissent qu'ils ont besoin du médecin, du guérisseur dont il est question dans Exode, de Adonai Rapha, que je suis. Il est en train de dire, ces personnes-là ont besoin de Dieu, et je suis Dieu. Et je suis venu pour les faire passer des ténèbres à la lumière, parce que seul moi le peux. Et ensuite, il s'adresse aux pharisiens, aux légalistes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les pharisiens et les légalistes ne sont pas justes. Ils ne sont pas justifiés. Jésus, là, il fait de l'ironie. Il leur dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes, pour ceux qui se considèrent comme justes. Puisqu'ils ont leur propre loi, je ne peux rien faire. Ils ont fermé la porte. Je ne suis pas venu pour eux. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent comme injustes, pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de moi, pour les justifier. Dans certaines traductions, dans certaines Bibles, vous avez encore la fin du verset où il est marqué « en vue de la repentance » ou « pour un changement d'attitude ». Ce n'est pas dans tous les textes parce que ce n'est pas dans tous les manuscrits, mais c'est ça le but. Autrement dit, Jésus est en train de dire « mais si tu fais ta propre justice, tu me fermes la porte. Je ne peux pas te rejoindre. Mais reconnais là où ça ne va pas. » Alors au tout début, je vous ai dit, mais parfois, on n'a pas bien compris ce qui attire Jésus en nous. Je reprends. Qu'est-ce qui attire Jésus en toi? Est-ce que c'est ta consécration? Est-ce que c'est le nombre d'heures que tu passes à genoux dans la prière? Est-ce que c'est ta méditation de la parole? Non. Est-ce que c'est ta louange? Jésus vient demeurer dans ta louange. Mais c'est un résultat, c'est le résultat de ce qu'il a fait dans ton cœur. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Il est venu ouvrir les yeux des aveugles, briser les œuvres du malin dans nos vies. Il est venu délivrer les captifs, libérer les prisonniers, ouvrir les oreilles des sourds. Jésus, il est venu, ce qu'il attire dans ta vie, pas ce qu'il aime, je ne suis pas en train de dire ce qu'il aime ou ce qu'il apprécie, mais ce qu'il attire dans ta vie, c'est le péché, c'est la maladie, c'est la malédiction. Parce que c'est ça qu'il est venu toucher, qu'il est venu anéantir, qu'il est venu briser. C'est pour ça qu'il est venu, pour prendre ces choses-là, les prendre sur lui et les terrasser à la croix. Alors quand tu te sens coupable, plutôt que de t'éloigner de Jésus, te dire « je suis indigne, ce matin je ne peux pas prendre la Sainte Cène parce que j'ai fait un truc hier que je n'aurais pas dû », là tu es en train d'être pharisien et de faire ta propre justice. Dis-toi plutôt « mais Jésus m'aime tellement, il m'a tellement fait grâce » que ce qui l'attire en moi dans ce moment précis, c'est justement mon indignité. Jésus, je t'invite dans mon indignité, je te demande pardon, et cette laideur, je te la remets. Et Jésus la prend, il la terrasse à la croix, et tu peux prendre la Sainte Cène pour proclamer ce qu'il a fait pour toi, parce qu'il t'a rendu digne, parce que toi-même, tu ne peux pas te rendre digne. Tu ne peux pas te faire justice. Tu peux juste te fatiguer à essayer. Ça va? Ça peut faire bizarre de se dire « qu'est-ce qui attire Jésus en moi ?» Mais je ne suis pas en train de vous dire « qu'est-ce que Jésus aime en moi ?» Mais c'est plutôt « qu'est-ce que Jésus est venu faire en moi ?» Sauf que si je lui ferme la porte parce que je pense que je suis pas digne qu'il vienne toucher ces choses, ben, il viendra pas les toucher. Et moi, je vais rester à l'extérieur de la maison. Je préfère me dire, moi, je suis un pécheur comme tous les autres. J'ai reçu la grâce, j'ai fait du chemin. Alors c'est vrai que pour des choses, ma vie est plus consacrée que pour d'autres. C'est vrai que je suis plus guérie dans certains domaines que d'autres, mais tout est grâce. Je suis pas plus digne. C'est juste que j'ai un peu des... Je suis née un peu avant les autres, dans ces domaines-là, spirituellement. J'ai vécu telles étapes avant les autres. Mais je viens du même endroit, à Radépacrète. Je suis pas meilleure. J'ai juste un Dieu merveilleux qui m'a fait vivre des choses. Et moi, ce que je veux faire, c'est prier pour que mes frères et sœurs vivent la même chose. Et qu'ensemble, on se soutienne et qu'on comprenne que ce qui attire Jésus en chacun de nous, c'est ce qu'il est venu terrasser, c'est ce qu'il est venu guérir, c'est ce dont il est venu nous délivrer, nous débarrasser. Nous avons un Dieu de grâce, un Dieu d'amour qui n'a pas eu peur de se salir, de se mélanger aux gens impurs. Il n'a pas eu peur de mettre les mains dans le cambouis. Et parfois, nous, on a besoin d'apprendre à mettre nos mains dans le cambouis. Tant pis si je ne suis pas dans la loi, mais je suis dans la grâce. Parce que j'ai bénéficié de la grâce. Alors, suivre Jésus sur YouTube, c'est bien quand on n'a pas la possibilité de faire autrement. Mais l'inviter à la maison, l'accueillir, c'est mieux. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Merci pour tous ces témoins qui ont passé avant nous, ceux dont il est question dans cette parole. Merci pour tous ceux qui ont été des exemples, des bons exemples, des mauvais exemples qui nous enseignent. Mais merci surtout pour cette parole de grâce, cette parole de délivrance, cet appel que tu nous as adressé par la puissance de ton Saint-Esprit, par ton amour, Père, depuis le haut des cieux. Tu nous as appelés, tu es venu nous rechercher dans les profondeurs de la mort pour nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour ta grâce, une grâce tellement difficile à comprendre et à saisir. Je te demande ce matin de toucher les cœurs. Je te demande maintenant par ton Saint-Esprit de visiter les cœurs. Visite chacun d'entre nous. Répands-toi, Saint-Esprit. Répands-toi et touche les cœurs. C'est toi qui convainc de justice, de péché, de jugement. Et je te demande maintenant d'ébranler les forteresses. Ébranle les forteresses là où ça bataille, là où il y a le comment faire, Seigneur, comment faire, Seigneur, comment faire. Je te demande, Seigneur, de faire tomber les forteresses. Brise les œuvres du malin en chacun d'entre nous. Là où il y a du légalisme, je te demande de briser le légalisme. Brise la puissance du malin. Brise la puissance du légalisme. Je lis l'homme fort sur chacun de mes frères et sœurs, chacune de mes sœurs, chacun de mes frères ici présents, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les esprits légalistes maintenant tremblent devant le Seigneur et s'en aillent. Ils sont dénoncés. Je les dénonce devant le trône de Dieu, devant le trône de sa gloire. Que les esprits légalistes quittent cette assemblée maintenant dans le nom de Jésus. Que leur puissance soit brisée. Que tous ceux qui reconnaissent ces esprits en eux aient la force de les combattre, aient la force de se repentir, de les mentionner et de les chasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de donner la force à mes frères et sœurs de reconnaître là où ils en sont, de reconnaître quand ils sont sous la loi plutôt que sous la grâce, de reconnaître quand ils jugent, quand ils se jugent eux-mêmes ou quand ils condamnent leurs frères et sœurs. Donne-leur la grâce de le voir, de se repentir et de refuser. Donne-leur d'ouvrir leurs yeux, ouvre leurs yeux, fais tomber les écailles de leurs yeux. Brise, Seigneur, tout ce qui t'empêche d'entrer dans leur vie. Convainc leur cœur par ton Saint-Esprit. C'est ta grâce qui a fait ça, c'est ta grâce qui le fait encore. Je t'implore, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui ont besoin d'être libérés de la condamnation. Donne-leur le vouloir et le faire de quitter leur poste de péage pour toujours et de t'appartenir, de t'accueillir, de te recevoir, de te suivre, de t'être loyal, de te protéger, de t'annoncer, de te refléter. Merci, Seigneur. Que la délivrance vienne dans chacun de mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lévi, c'est Matthieu. Matthieu, c'est pas seulement un disciple, c'est un des douze, mais c'est un apôtre. Et c'est celui à qui on attribue le premier évangile. Il n'a pas juste quitté son poste de péage. Il a sacrifié sa vie. Amen.